Donc, regardons dans Jean chapitre 6, à partir du verset 30 jusqu'au verset 44. Et aujourd'hui, nous allons étudier sur le sujet de Christ, le pain de vie. Rappelons-nous du contexte ici que Christ était allé de l'autre côté de la mer après avoir marché sur les eaux. Ça, c'est du verset 16 jusqu'au verset 21. Et puis, le lendemain, la foule l'a poursuivi, voulant savoir où il allait. Et c'est Christ qui a examiné leur mobile, le pourquoi qu'ils suivaient le Christ. Et Christ lui-même, connaissant les cœurs des hommes, disait dans le verset 26, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Il y a plusieurs raisons que les gens confessent Christ, même aujourd'hui. Beaucoup sont encouragés à suivre Christ pour les biens matériaux ou bien pour avoir du succès dans la vie. Et oui, d'autres pour les miracles. Mais Christ a dit, comme on l'a vu la dernière fois dans le verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Quand il dit « là, travailler non pour la nourriture qui périt », il ne veut pas dire ne pas travailler. Je crois qu'en tant que enfant de Dieu et sauvé par la grâce de Dieu, nous devons démontrer au monde ce que c'est de travailler. Il n'y a pas de paresseux parmi les enfants de Dieu, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous anime et qui nous pousse à vouloir tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, travaillons, mais quand il dit « ne travaillez pas pour la nourriture qui périt », cela veut dire le but de notre travail n'est pas simplement les gains matériaux, ce n'est pas d'augmenter notre trésor ici-bas, mais d'utiliser ce que le Seigneur nous donne et de multiplier ce qu'il donne pour sa gloire. C'est comme des arbres qui portent du fruit. Si le Seigneur nous a placés dans ce monde, donc nous serons des bons entrepreneurs. Nous serons en train de travailler, non seulement pour subvenir à nos besoins et aux besoins de nos familles, mais aussi de pouvoir aider et donner aussi pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'Évangile dans le monde. Mais notre objectif n'est pas simplement de ramasser beaucoup de trésors ici-bas. C'est pourquoi il dit « travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » Quels sont les biens qui subsistent pour la vie éternelle? Il s'agit là des âmes. Et nous savons que nous ne pouvons pas convertir des âmes, mais peu importe que nous soyons ou nous ayons le titre pasteur ou pas, il faut dire que chaque enfant de Dieu est un témoin à la gloire de Christ, à la gloire de Dieu dans ce monde. Et donc, partout où nous allons, lorsque le Seigneur nous donne l'occasion de témoigner, nous témoignons. Et c'est Dieu qui, selon sa volonté, prend la sémence de son évangile et il sème cette sémence dans les cœurs de ses élus. Nous ne savons pas qui ils sont, on ne sait jamais. C'est pourquoi nous devons prêcher la parole partout dans le monde. Et c'est Dieu qui œuvra comme il veut. Mais néanmoins, c'est un travail qui subsiste pour la vie éternelle. et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. On peut bien travailler pour le gain des âmes des autres, mais il ne faut pas oublier aussi notre propre âme. Donc, nous avons besoin tous les jours d'avoir cette parole que nous lisons, d'être à l'écoute de l'évangile pur. Nous n'avons pas besoin de ce message populaire qui est prêché aujourd'hui. Un tel message ne peut pas sauver l'âme. Mais nous devons garder notre âme, garder notre esprit, tout en écoutant le véritable évangile. Et en nous fraternisant avec des gens, des frères, des sœurs, que Dieu aussi a appelés. Ici, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il parle là du Fils de l'homme, c'est-à-dire du Christ. Notez bien, c'est Christ qui donne la vie éternelle. Et c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il a dit de son Fils, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, cela a suscité la curiosité dans l'esprit des gens qui l'écoutaient. Et dans le verset 28 de Jean 6, nous avons vu ça la dernière fois, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est intéressant qu'ils ont mis ça au pluriel. Il y a des gens qui veulent toujours se lancer dans le ministère et, selon eux, faire le travail de Dieu et accomplir beaucoup de choses comme Christ et ses disciples faisaient lorsqu'ils marchaient sur cette terre. Mais notez bien la réponse, verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Ouais, le contraste, eux, ils ont demandé à faire les œuvres de Dieu, ce qui est impossible. C'est Dieu seul qui est créateur, c'est Dieu seul qui est souverain, c'est Dieu seul qui est le sauveur, c'est Dieu seul qui est le juge. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu. Mais si quelqu'un veut savoir l'œuvre de Dieu, voilà ce qui est écrit ici dans le verset 29. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Peu importe le succès qu'un homme ou une femme aurait eu dans cette vie, dans leur entreprise ou bien dans leur travail qu'ils ont fait durant toute leur vie, peu importe s'ils sont restés dans l'incrédulité, ça veut dire sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu agissant en eux, leur donnant la foi. Donc quand il dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quand il dit l'œuvre de Dieu, il s'agit là de cette œuvre que Dieu lui-même doit faire pour que des pécheurs comme nous croyons en celui, en Christ qu'il a envoyé. Donc, voilà l'importance de ce verset, de nous montrer d'où vient la foi. La foi vient de Dieu et nulle part d'autre. Ce n'est pas quelque chose dans l'homme qu'il a à produire. C'est bien précisé, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Maintenant, nous voyons à partir de verset 30, ils sont toujours branchés sur le miracle, et voulant que Christ fasse encore davantage des miracles. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés aujourd'hui par ce même sentiment. Pour eux, ils veulent voir des miracles, ils veulent expérimenter les miracles de Dieu. Donc, ils ont posé cette question à Christ, quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions, et que nous croyons en toi, que fais-tu? Alors, déjà, dans le verset 30, nous voyons l'ignorance de ceux qui étaient à côté du Christ, comme l'ignorance aujourd'hui, parce qu'ils imaginent que c'est à travers les miracles qu'on arrive à la foi. Pourtant, c'était déjà écrit dans le verset 29 que la foi vient de Dieu. Et c'est Dieu qui donne la foi. Ce n'est pas à travers les miracles. Il y a beaucoup qui ont vu des miracles et qui eux-mêmes étaient les sujets de ces miracles, mais qui n'étaient pas dans la foi. C'est-à-dire, ils sont restés dans l'incrédulité. Un exemple, il s'agit des lèpres qui sont venus auprès de Christ. Et il y en a 9 que Christ avait guéri. Pourtant, il n'y avait qu'un seul qui est revenu auprès de lui pour l'adorer. Il est revenu. Et quand il a demandé après les autres ne sont pas revenus. Tel est le cas pour beaucoup qui expérimentent peut-être des miracles dans leur vie. Il faut dire que si Dieu donne la santé à quelqu'un qui est malade et rétablit cette personne, donc cette personne est l'objet d'un miracle en quelque sorte, parce que c'est quelqu'un qui était malade et voilà, Dieu l'a rétabli. Mais le fait que Dieu l'a rétabli ne signifie pas que alors ce sont des enfants de Dieu. Dieu est miséricordieux envers toutes ses créatures. Il y a une différence entre la miséricorde et la grâce de Dieu. La grâce est toujours dans le sens du salut. Que lorsque Dieu donne sa grâce, c'est toujours pour sauver l'âme d'un tel pécheur. Mais la miséricorde, le sens du mot miséricorde, c'est d'être miséricordieux envers les misérables. Et Dieu fait miséricorde à toutes ses créatures. La pluie tombe sur les justes et les injustes. Il fait lever le soleil sur les justes et les injustes. Il ne fait pas de distinction en ce qui concerne les créatures, mais en ce qui concerne la grâce de Dieu, ça c'est uniquement Jésus-Christ. Et ça c'est pour ceux qu'il a choisi depuis l'éternité et pour qui le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Alors, les gens ici voulaient toujours voir un miracle. Et ils disaient, en faisant des miracles, qu'ils allaient croire en lui. Mais cela est évident que ce n'était pas le cas parce que Christ avait déjà multiplié les pains. Et ceux qui étaient là ont vu cette multiplication des pains, mais ils n'étaient pas satisfaits. C'est parce qu'ils ne croyaient pas en celui que le Père envoyait. Ils ne croyaient pas qu'il était celui que Dieu a marqué de son sceau. Donc, le fait de multiplier ces questions ne faisait que prouver qu'ils étaient des opposants, plutôt que d'être de véritables disciples. Mais voilà sur quoi ils insistent avec le Seigneur Jésus dans le verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. C'est intéressant que des gens qui veulent exiger quoi que ce soit de Christ vont souvent aller dans les Écritures pour demander de lui à faire certaines choses parce que c'est ce qui était fait dans le passé. Et c'est certainement ce que ceux-là ont dit pour essayer de pousser Christ à faire encore des miracles. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Donc, ils voulaient quelque chose de plus que la simple multiplication des pains. Ils voulaient que Christ fasse tomber du ciel encore la manne, comme ça a été dans leur histoire. Et voici la réponse que Christ donne. Et ceci est très important pour nous aussi de comprendre. Parce que il y a effectivement des choses que Dieu a faites par le passé, dans l'histoire, qui ne servaient que d'exemple ou bien de type. Ces choses préfiguraient le Seigneur Jésus. Donc, il ne va pas retourner en arrière pour recommencer ce qui était fait dans l'histoire. Mais Christ dit ici, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ils étaient toujours en train de mettre l'accent sur le fait qu'ils suivaient Moïse. Mais il dit que ce n'est pas Moïse qui a créé ce pain-là. Et ce pain, cette manne qui a été donnée, n'était que temporaire. Exactement comme il a dit ici, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Bien vrai, la manne a été donnée de Dieu et les gens allaient tous les jours ramasser cette manne, mais il fallait tous les jours aller ramasser. Il fallait que Dieu donne davantage cette manne tous les jours pour nourrir cette population. Mais cela ne venait pas de Moïse. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, même à cette époque, ce n'était même pas Moïse qui donnait la manne, mais aussi cette manne périssait. Il dit, cette manne devait céder la place maintenant à celui qui est le véritable pain. Ouais. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, le verset 33, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Quand il dit « donne la vie au monde », il veut parler là du fait que c'était la nation d'Israël à l'époque qui bénéficiait de cette manne et non pas les autres nations. Mais Christ étant, notez bien, le pain de Dieu, ça c'est un terme qui se rapporte au pain qui était placé sur la table dans le tabernacle à l'époque et exposé devant Dieu. Les 12 pains représentaient les 12 nations d'Israël pour qui les souverains sacrificateurs faisaient maintenant la représentation. Ainsi, il dit, le pain de Dieu, d'abord c'est celui qui descend du ciel. Donc en cela, nous voyons des comparaisons entre la manne de l'Ancien Testament qui est descendue du ciel et les gens sortaient pour trouver ça sur la terre. Ça représente, ça préfigure le Seigneur Jésus qui est descendu du ciel. Ça nous montre l'origine du Seigneur Jésus. Il n'est pas de cette terre, mais il est venu du ciel sur cette terre. Mais une différence, il y a toujours des comparaisons et des contrastes. Ici, il dit, et qui donne la vie au monde. Cela ne veut pas dire qu'il est venu pour sauver tous les individus du monde entier, mais ça signifie qu'il est venu pour sauver des pécheurs et donner la vie, le mot monde là, signifie les nations. Et voilà la différence. Qu'auparavant, l'accent était sur la nation d'Israël, mais maintenant, avec la venue du Seigneur Jésus, il est venu non seulement pour les Juifs, mais pour les pécheurs de toutes les nations. Et c'est ce qui signifie Jean 3,16, que nous avons déjà vu dans notre étude, quand c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Nous avons vu que le mot « tant », c'est une traduction, mais si on va dans l'original, une meilleure façon de lire ça, c'est « car Dieu, de cette manière, a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc, Christ n'est pas venu dans le monde simplement pour les Juifs. Heureusement, parce que je ne sais pas si j'ai des racines juives en moi, en ce qui concerne les racines physiques, mais je sais que je suis un juif spirituellement, selon ce que Paul a dit aux Romains, dans Romains chapitre 2, il a dit qu'un juif n'est pas celui qui est l'extérieur par la circoncision, mais celui qui est juif du cœur. Dans Romains chapitre 2, le verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible, mais dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Encore, les comparaisons. Il y avait une nation dans l'Ancien Testament élue et choisie par Dieu, mais ça devait représenter les élus de Dieu, qu'il a choisi pour le salut, parce que le salut vient de lui. Mais non pas seulement des Juifs, mais de toute nation. Et c'est pour eux que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. C'est pourquoi nous lisons ici que celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Nous devons savoir que chaque fois que le Seigneur Jésus mentionnait le monde, pour les Juifs, c'était un scandale. Parce que pour eux, ils cherchaient un Messie juif, quelqu'un qui allait venir établir un royaume juif. Je dois dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui anticipent le retour de Jésus pour établir un royaume principalement juif encore à Jérusalem. Il y en a même des assemblées ici aux États-Unis, mais dans le monde entier, qui continuent à soutenir un fonds pour le rétablissement du temple à Jérusalem. C'est incroyable. Pourquoi rétablir un temple qui ne sert plus à rien? Parce que Christ est le temple. Et qui sont ceux qui imaginent que Dieu va rétablir maintenant un système de sacrifice? Pourtant, Christ est l'agneau de Dieu. Et il s'est donné lui-même comme le sacrifice pour des pécheurs du monde entier. Donc, ceux qui anticipent encore un royaume terrestre et le rétablissement d'un centre d'autorité à Jérusalem sur cette terre sont dans l'ignorance, ils se trompent. Mais c'est ce que cette foule cherchait, non seulement quelqu'un qui allait rassembler les Juifs encore et les rétablir dans une nation renommée, parce que à l'époque où Christ était sur la terre, les Juifs étaient sous la tutelle des Romains, dans l'esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, quoique la nation existe là-bas, mais les gens qui sont citoyens de cette nation d'Israël sont toujours dans l'incrédulité pour aller là-bas et se tenir dans les rues et prêcher le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, et on va vous arrêter parce qu'ils détestent le Christ de la Bible. Ils attendent toujours un Messie qui doit venir encore. Ils ont déjà rejeté Jésus de Nazareth jusqu'à aujourd'hui. Il faut aller là-bas leur dire que Jésus de Nazareth est le Messie. Ils vont cracher dans votre visage. Telle est la haine qui existe toujours. Et donc, quand Christ mentionnait le monde, quand il dit ici, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, ça, c'était déjà une offense pour eux. Mais ce qu'ils voulaient, verset 34, ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Ils n'ont pas encore compris que le pain dont ils parlaient, c'était lui-même. Ils sont toujours en train d'insister sur la manne. Il voulait voir encore la manne tomber du ciel. Et cela pour raison, parce que ce qui est de la chair est toujours la chair. Les hommes sont aveugles dans leur péché. Et peu importe ce que cette parole a à nous dire au sujet du Christ, les gens vont toujours comprendre cela dans un sens naturel. Comme ceci. Mais là, pour clarifier, dans le verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Donc, comment on peut ignorer cela? Que tout ce qui était écrit auparavant préfigurait Christ comme le pain de vie. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Est-ce que vous ne voyez pas la comparaison entre ça et ce que Christ a dit à la femme samaritaine? Parce qu'il est le pain de vie, mais il est aussi l'eau de vie. Et il a dit à la femme dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » C'est pour nous montrer des comparaisons entre l'eau et Christ. C'est l'eau qui vivifie. Et c'est entre le pain et Christ. La manne et Christ. Tout cela a été donné afin que nous sachions davantage qui est le Seigneur Jésus. C'est comme ça que Christ enseignait souvent. Il prenait les choses dont nous sommes habitués dans la vie, l'eau, le pain, l'arbre, le fleuve, autre chose. Et il utilisait cela comme symbole pour représenter qui il était ou qui il est spirituellement. Et il dit ça, celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Donc le verset 35 nous montre ce que c'est de manger Christ. Qu'est-ce que c'est de manger Christ? Ce n'est pas là physiquement, et ce n'est pas que nous prenons une partie de sa chair et nous mangeons. Mais manger de Christ, c'est venir à lui. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu nous donne cette faim maintenant, pour lui, le pain de vie, cette soif, pour lui, l'eau de vie. Un cadavre n'a pas faim. Un cadavre, tant qu'il n'y a pas la vie dans cette personne, n'aura jamais soif. Et pour moi, c'est l'indication la plus claire quand on est en train de prêcher aux gens de savoir s'ils sont vraiment à Christ ou non. On n'a pas besoin d'aller loin. Est-ce qu'ils ont faim de connaître Christ tel qu'il est révélé dans ses Écritures? C'est pourquoi je prêche Christ, même en prêchant maintenant. Si le cœur d'un pécheur n'est pas attiré vers ce Christ-là pour le connaître davantage et d'avoir son âme rassasiée de lui, vouloir écouter encore et encore de lui, de Christ et son œuvre et de sa gloire et ce qu'il a accompli pour les pécheurs, s'il n'y a pas ce désir, c'est qu'il n'y a pas la vie. Parce que Christ dit, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà les deux choses essentielles pour la vie, n'est-ce pas? C'est la faim, c'est la soif, c'est l'appétit. Donc, peu importe la profession que donnent les gens de Christ, on peut savoir qu'est-ce qui est véritablement l'œuvre de Dieu par la faim et par la soif. Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont soif de Christ? Il y en a beaucoup qui disent, ah oui, mais oui, j'ai besoin de Christ, mais j'ai besoin d'autres choses aussi. Et ils mettent tout le temps l'accent sur ces autres choses. Non, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà l'appétit que donne l'Esprit de Dieu. Alors, c'est maintenant que Christ met le doigt sur leur incrédulité, parce qu'il dit, verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Voilà un point très important encore. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais si le Seigneur Jésus pouvait revenir encore et marcher dans nos rues et fréquenter nos assemblées, alors beaucoup de personnes vont croire. Non. Ils n'ont même pas cru en Christ lorsqu'il était physiquement devant eux. Ils disent ça. Je vous l'ai dit. Donc, ça veut dire qu'ils ont entendu cette parole de sa voix, dans sa voix directement. Vous m'avez vu physiquement, ils ont vu le Seigneur Jésus, et vous ne croyez point. Parce que ce n'est pas comme ça que les hommes vont croire. Christ lui-même a dit ça à Nicodème. Et encore, ça revient sur la nature spirituelle de cette œuvre de Dieu pour révéler Christ au cœur tel qu'il est dans la parole. Mais Christ a dit à Nicodème dans Jean 3:3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, voir, apercevoir spirituellement. Je suis en train de vous parler d'un Christ que je n'ai jamais vu de mes propres yeux. D'ailleurs, même s'il se présentait ici physiquement, je ne pouvais peut-être même pas l'identifier. Et je peux vous dire certainement, il n'est pas comme les artistes sont en train de le dessiner et le décrire sur avec leur dessin de soi-disant Jésus. Vous pouvez aller brûler toutes ces images que les hommes ont fait de Christ, et vous n'avez pas touché à qui Christ est en vérité. Non, ce n'est pas de le voir physiquement. Je ne sais pas comment il est. Je sais qu'il était un juif et qu'il marchait sur cette terre comme un homme, et il avait des caractéristiques comme ceux des juifs qui étaient parmi qui il habitait. Mais de dire qu'il y avait une lumière qui brillait derrière lui et qui l'identifiait comme le Fils de Dieu, non. Les gens l'ont regardé et ont tourné le visage. Et même ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Parce qu'il ne représentait pas ce qu'ils cherchaient dans un Messie. Et même Ésaïe, quelques 500 ans avant la venue du Christ, a dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est Christ. Qui pouvait le reconnaître physiquement, d'une manière naturelle? C'était qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et notez, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et cela, nous voyons prouvé ici. Parce que voilà, Christ, le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, physiquement devant cette foule, même faisant des miracles qu'il identifiait comme le Messie, mais il ne croyait pas toujours. Christ a mis le doigt sur le problème. C'est que l'homme est mort dans ses péchés. Et si Dieu ne lui donne la foi, si Dieu ne n'ouvre pas les yeux pour contempler, les yeux spirituels pour contempler Christ dans toute sa gloire, les hommes resteront toujours dans l'aveuglement et dans l'incrédulité. Alors, c'est pourquoi Christ dit dans le verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Ça, c'est clair. Et voilà le point d'incrédulité aujourd'hui, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Voilà une vérité qui est ignorée et qui démontre que les hommes sont toujours dans leur incrédulité, parce qu'ils veulent croire que c'est selon leur propre volonté qu'ils se donnent à Jésus. Donc, laissez à eux-mêmes, comme nous voyons ici, nul ne viendra. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Les hommes aiment citer cette deuxième partie du verset pour dire, ah, vous voyez, si vous venez, alors il ne pourrait pas vous mettre dehors. Mais ça, c'est d'arracher le verset de son contexte. Il faut citer la première partie du verset. Et la prochaine fois que quelqu'un veut vous dire que non, Christ ne peut pas refuser qui que ce soit parce qu'il lui-même, il dit, ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il faut leur poser la question, mais quelle est la première partie de ce verset? Il ne peut pas répondre parce qu'ils n'ont jamais été enseignés. Mais notez, la deuxième partie du verset sort de la première partie du verset. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. C'est pourquoi il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui, parce que celui qui vient à lui, cela est donné déjà du Père. Alors comment on peut savoir ceux qui sont à Christ et ceux qui ne sont pas? C'est de savoir s'ils sont venus à lui. Cela veut dire, ils sont venus à lui tel qu'il est révélé ici dans les Écritures, non pas selon les dires des prédicateurs ou bien selon le témoignage de quelqu'un d'autre, mais selon le témoignage de Dieu lui-même. Il y a longtemps, chacun de nous suivait le témoignage d'un autre en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Mais un jour, Dieu, par son esprit, a tiré nos regards sur Christ et a ouvert nos yeux pour le contempler tel qu'il est ici dans la parole. C'est pourquoi nous devons toujours insister sur la parole et non pas entrer dans les débats des idées avec des gens. Non, que dit la parole? Que dit Dieu au sujet de son Fils? Et j'ai dit, souvent dit qu'il y a cinq questions que l'Évangile pose. D'abord, qui est Christ? Pose et puis donne la réponse. Pourquoi il est venu dans ce monde? Pour qui il est venu dans ce monde? Et qu'est-ce qu'il a accompli lorsqu'il était dans ce monde, surtout à travers sa mort à la croix, et où il est maintenant? Si quelqu'un ne peut pas répondre à ces cinq questions selon la parole de Dieu, donc cette personne n'a jamais compris l'Évangile. Le Christ dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Donc il est en train de faire une distinction entre ceux qui lui appartiennent et le reste. C'est comme ça l'Évangile fait cette distinction. C'est une épée qui tranche entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il dit, verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, quelle est la volonté de celui qui l'a envoyé? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de sauver tous les êtres humains comme est prêché, mais hélas, les hommes résistent? Non. Pour voir le verset 39, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Vous ne voyez pas le blasphème à ceux qui prêchent que Christ a donné sa vie pour tous les êtres humains, mais en fin de compte, il y en aura qui doivent condamner quand même à aller à l'enfer parce qu'ils n'ont pas cru. Ça, c'est quel genre d'œuvre, là? Non, Christ dit, je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné. Ce qui est certain, c'est que tous ceux que le Père a donné à Christ, et cela depuis l'éternité, et pour qui il est venu dans ce monde, sont certainement sauvés. parce que le salut dépend de lui, ça dépend de son œuvre. Et il le dit, je le ressuscite au dernier jour. C'est ce que nous attendons. Nous allons tous mourir physiquement. Mais nous attendons cette résurrection parce que Christ lui-même est ressuscité et monté au ciel. Et c'est lui le souverain sacrificateur qui règne aujourd'hui. Et lorsque le dernier de tous ceux que le Père lui a donné est maintenant appelé à lui, et on ne sait jamais combien de temps reste encore, nous anticipons cette résurrection à la fin des temps. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà ces deux choses qui sont nécessaires. Voir d'abord. Voir comment? Spirituellement. Avoir des yeux ouverts spirituellement. Et puis croire. Ceux qui ont des yeux ouverts spirituellement croiront, parce que cette croyance est le fruit de cette œuvre spirituelle, de l'esprit qui ouvre les yeux et qui donne alors en Christ cette vie éternelle. Mais vous voyez par la suite le résultat. C'est pourquoi je dis, restons sur ce sujet. Lorsque nous prêchons, nous n'avons pas d'autre message que de prêcher ce Christ souverain. Qui il est? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il a accompli? Pour qui? Tout cela est répondu dans notre texte. Et c'est l'évangile qui va trancher maintenant parmi nos auditeurs. Ici, verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet. Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Les gens ne voyaient en lui qu'un simple homme, quels que soient les miracles qu'il faisait, ou bien un prophète de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Parce que dire, je suis le pain qui est descendu du ciel, c'était dire qu'il est Dieu lui-même dans la chair. Et voilà ce qu'il ne voulait pas accepter, parce que verset 42, il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Encore, ce qui est de la chair ne peut voir que la chair. Celui dont nous connaissons le père et la mère, faut savoir que Joseph et Marie étaient des parents adoptifs. Dieu s'est servi du sein de Marie simplement pour faire venir son fils de ce monde, mais il est fils de Dieu. Mais il ne pouvait pas comprendre cela. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Et encore, Christ répète, verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Voilà ce qui démontre l'incrédulité. C'est le murmure. Les gens veulent maintenant contester avec ce que dit la parole de Dieu. Mais Christ dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Telle est la parole de Dieu. C'est que c'est l'œuvre de Dieu. Et ça revient encore à ce que Christ dit dans le verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Nul ne peut croire. Nul ne peut venir si cela ne lui est donné par Dieu. Et Dieu merci, il y a ceux qui sont les objets de sa grâce, c'est pour qui il envoie le Seigneur Jésus dans le monde. Et nous pouvons être certains que cela, il va certainement attirer à Christ, parce que Christ a déjà payé leur dette.